Le château aventureux, chapitre 51. En voyant tomber son amie, elle s'était enfuie vers la cité, et le palais, aussi vite que son pas le froid minable pouvait aller. Et lorsqu'ils la virent entrer dans la salle, couverte de ses loques, le roi et ses barons furent tout ébahis. Mais elle leur conta ce qui lui était advenu. Comment le Gallois lui avait pris un baiser et ravi son anneau, puis comment il avait oxy son ami. Et tous, à entendre la demoiselle, admirèrent qu'il fût si vaillant. Et que le sénéchal dit qu'il voulait aller voir ce qu'il advenait du valet sauvage. Quand il arriva, Perceval venait d'allumer un grand feu où il se préparait à jeter le corps de l'orgueilleux. « Que faites-vous, belle amie ? » demanda le sénéchal surpris. « Je voudrais prendre les armes que le roi m'a données, mais elles tiennent si bien au corps qu'elles en font partie, ce me semble. Aussi veux-je brûler la chair pour avoir la carapace. »«
Je les détacherai bien, si vous voulez. »«
Faites donc vite. »
Que dévêtit le mort sans lui laisser rien. Mais le valet ne voulut prendre ni la cotte de soie que l'orgueilleux portait sous son haubert, ni les bottes qu'il avait aux pieds, pour prière que le sénéchal lui en fît.
Croyez-vous que je changerai ma bonne chemise de chanvre que ma mère me fit l'autre jour pour cette soie, comme vous l'appelez, toute molle, toute fragile, et que je laisserai pour celle-ci ma cotte de cuir que l'eau ne peut traverser? On y soit qui échange ses bons draps contre de mauvais.
Le sénéchal lui laissa donc les choses de fer et les éperons, puis il lui passa le haubert, le coiffa du haume, lui saignit l'épée, et après l'avoir fait monter sur le grand destrier, il lui bailla la lance et l'écu. Et Perceval s'émerveilla des étriers, lui qui n'en avait jamais vu, et des éperons, n'ayant jamais usé que d'un fouet.
« Beau sire, dit-il à queue, prenez mon petit bidet de gale, si vous voulez, il est très bon, et je n'en ai plus besoin. »«
Grand merci, fit le sénéchal en riant. Là-dessus, il le recommanda à Dieu et retourna à la cour conter ce qu'il avait vu.
« Ah, que, dit le roi, votre envieuse langue m'a fait perdre aujourd'hui un chevalier qui, certes, eût été bon. Il se fera tuer par quelque vavasseur qui voudra lui prendre ses armes. Comment se défendrait-il? Sans doute ne sait-il pas seulement tirer l'épée. »
Mais le comte, à présent, revient à Perceval. Chapitre 52. Enfance de Perceval le Gallois, l'éducation. Il alla tant sur son destrier qu'il arriva dans une vallée où coulait un fleuve plus courant que la Loire. Et là, sur un rocher, au bord de l'eau, s'élevait un fort château. Un prud'homme, vêtu d'une robe d'hermine, s'ébattait sur le pont-levis avec deux damoiseaux, tenant par contenance un bâtonnet à la main. Perceval vint à lui et le salua de son mieux. « Sire, dit-il ensuite, ainsi m'enseigna ma mère.
« Dieu te bénisse, beau frère, répondit le prud'homme qui vit bien sa simplicité. « D'où viens-tu ? »
« De la cour du roi Artus, qui m'a fait nouveau chevalier. »«
Chevalier ? Mais ces armes, qui t'en fit donc ? » ?»«
Le roi. »
Et Perceval conta comment il les avait eus.
« Ah, et que sais-tu faire de ton destrier ? » continua le prud'homme.
« Tout ! Je sais le faire courir aussi bien que mon petit cheval de chasse que ma mère m'avait donné à la maison. »
« Et vos armes, belle amie, savez-vous vous en servir ?»«
Certes, je sais les mettre et les ôter, et je les porte si aisément qu'elles ne me gênent pas du tout. »«
Mais quels soins vous amènent par ici ?»«
Sire, ma mère m'a enseigné d'aller vers les prud'hommes, où qu'ils fussent, et de croire tout ce qu'ils me diraient. Quand je vous ai vu, je suis venu. » »«
Eh bien, belle amie, descendez. »
L'un des deux valets prit le destrier et l'autre désarma Perceval, de manière qu'il demeura vêtu de ses grossiers habits à la mode de Galles. Alors le prud'homme se fit chausser les éperons tranchants, monta sur le cheval, empoigna la lance.
Puis il montra aux damoiselles comment on doit tenir l'écu par les poignets et s'en couvrir jusqu'au cou du destrier, déployer l'enseigne, mettre la lance sur le feutre, et brochant des éperons, il fit un galop d'essai, puis revint l'arme basse. Et Perceval, émerveillé, s'écria qu'il ne désirait pas tant de vivre un jour de plus ou d'avoir tous les trésors du monde que de savoir faire cela.
Ce qu'on ignore, on peut s'en instruire, beaux doux amis, dit le prud'homme, et vous n'êtes pas à blâmer, car à tout métier il faut apprentissage. Je vous enseignerai, si vous voulez.
Le valet consentit avec joie, et chaque jour, durant 6 mois, le prud'homme lui fit porter l'écu, pointer la lance, frapper de l'épée. Et comme tout cela lui venait de nature, Perceval en sut bientôt autant que s'il eût passé sa vie à tournoyer et guerroyer. En même temps, son maître lui montra beaucoup des belles manières de cour. Mais après ce temps, Perceval demanda son congé. Et voyant qu'il ne pouvait le retenir, le prud'homme lui fit cadeau d'une chemise, de braies, de choses très riches et d'une cotte dont le drap venait de l'Inde. Puis il lui dit « Beau frère, il convient maintenant que vous alliez à la cour du roi Artus et que vous le priez de vous armer chevalier. Et souvenez-vous de ce que je vais vous dire. Quand vous aurez vaincu un chevalier, s'il s'avoue outré, accordez-lui toujours merci. Et ne soyez pas trop bavard, car celui qui parle beaucoup, il lâche souvent des mots qu'on lui tourne à vil de nez. Qui jacasse, commet péché, dit le sage. Mieux vaut donc bon silence que folle parole. Secourez toujours les dames et les demoiselles, mais sur toute chose, gardez de corrompre votre chasteté. Enfin, allez souvent dans les églises pour prier Dieu qu'il vous garde en ce siècle et vous protège.
Soyez béni, beau sire, vous me répétez ce que ma mère m'a enseigné.
Beau doux frère, ne dites plus jamais « Ma mère m'a appris ceci ou enseigné cela. » Vous n'êtes pas à blâmer de l'avoir dit jusqu'à présent, mais désormais, gardez-vous-en. Maintenant, allez à Dieu, qu'il vous conduise. »
Et Perceval se mit en chemin, suivi d'un écuyer qui portait ses armes et menait en main son destrier.
Chapitre 53. L'adoubement de Perceval. La demoiselle qui jamais ne mentit. Lorsqu'il arriva, chevauchant un palefroid en blanc si bien taillé qu'on ne vit jamais une plus belle bête, monté sur une selle dorée, vêtu magnifiquement, muni de bottes si justes qu'il semblait qu'il en fût né chaussé, le roi s'émerveilla de le voir si beau et bien appris, et consentit volontiers à le faire chevalier, disant que le neveu du roi Pélès était prud'homme par héritage.
« Sire, dès demain, je vous prie, » s'écria Perceval. « C'est dimanche !»
L'enfant veilla donc cette nuit-là à l'église, et le lendemain, il retourna au service de Dieu, habillé d'une très riche robe de chevalier, en soie, que la reine lui avait donnée, marchant devant tous ceux que le roi, pour l'honorer, comptait adouber en même temps que lui. Néanmoins, quand il eut reçu ses armes et que vint l'heure du manger, il voulut s'asseoir au plus bas stable où étaient des chevaliers pauvres et peu renommés. À ce moment, une des pucelles de la reine s'approcha de lui. C'était la plus habile ouvrière en soie qui fût au monde, mais elle était muette et n'avait jamais parlé. Aussi l'appelait-on la demoiselle qui jamais ne mentit. Elle regarda longuement Perceval en pleurant de tendresse, et ce qui advint alors, on le tint à bon droit pour un miracle, car soudain la muette s'écria à si haute voix que chacun put l'ouïr dans la salle. « Chevalier de Jésus-Christ, viens t'asseoir à la table ronde !» Et prenant Perceval par le doigt, elle le conduisit au siège périlleux. « Ce siège sera celui du meilleur des meilleurs, » dit-elle encore. « Assieds-toi à sa droite. Bohor aura place à sa gauche. Et te souvienne de moi quand tu seras devant le Saint Graal. Cependant, prie pour moi, belle amie, car je trépasserai tristement. »
Elle le fit asseoir, puis elle retourna dans les chambres de la reine, et ce fut la dernière fois qu'on entendit sa voix à la cour. Et tous restèrent émerveillés de cette aventure, que le roi fit mettre en écrit par ses clercs.
Chapitre 54. Le chevalier enchaîné. Ainsi Perceval fut admis à la table ronde. Or, il demeura longtemps à l'hôtel du roi, pour diverses raisons que le comte ne dit pas. Et sans doute y fut-il resté davantage, sans une parole malheureuse qu'il entendit. Un jour, à l'entrée de l'hiver, au château de Cardigan, comme le roi était assis à son haut manger, Mordret dit à queue. « Que vous semble de notre nouveau chevalier ? On croirait qu'il aime mieux paix que guerre. »
« Cela paraît assez à son écu, il n'a jamais coup féru depuis son adoubement. »
Un fou de la cour qui entendit cela vint le répéter à Perceval en se moquant de lui. Et celui-ci, qui en eut grand honte, résolut de se mettre sur le champ en quête de Lancelot et de ne point revenir avant d'en avoir eu des nouvelles. Le soir, quand tout le monde fut couché, il prit ses armes, sella son cheval et partit. Il chemina durant quelques jours sans rien faire qui mérite d'être compté. Enfin, il aperçut une grosse pierre à laquelle un chevalier sans aume, ni écu, ni lance se trouvait attaché par une chaîne qui lui entourait le corps.
« Si tu es chevalier, dit le prisonnier, viens me délivrer, car je le suis comme toi. Mais sache qu'il te faut pour cela rompre cette chaîne d'un seul coup d'épée.
Je couperai le dernier anneau au bas de votre auberge, répondit Perceval, afin que vous ne demeuriez point enchaîné.
Et après avoir fait coucher le chevalier sur la borne, il hausse son épée, et d'un seul coup, il tranche la chaîne et les doubles mailles du auberge, sans seulement toucher la chair, et aussi la borne, comme une motte de terre.
« Sire, dit le chevalier délivré en se signant, il semble, à vous voir frappé de taille, que vous soyez moins homme que diable. »
Mais Perceval était déjà parti. Et à présent, le comte se tait de lui pour parler de Lancelot du Lac, dont il n'a rien dit depuis longtemps.
Chapitre 55. Frénésie de Lancelot. Quand il fut hors de Camaalot, à demi-nu, tel qu'il était sorti du lit de la fille au roi Pélès, il commença de s'arracher les cheveux et de s'égratigner le visage.
« Ah, Camaalot, criait-il, bonne cité, si bien garnie de seigneurs, de dames, de toute belle chevalerie, par toi j'ai commencé à vivre quand j'ai connu ma dame, et par toi je commence à mourir. Mort, hâte-toi. »
Durant une semaine, il erra dans les lieux sauvages de la forêt, marchant au hasard, gémissant jour et nuit, et sans boire ni manger, de façon qu'à la fin, sa tête se vida et qu'il perdit le sens. Il fut bientôt tout hérissé, le visage charbonneux, comme celui qui ne connaît d'autre bain que ceux de l'eau tombée du ciel. Bref, si noir, si hâlé, si maigre, qu'au bout d'un mois, personne n'eût su le reconnaître. Et il passa tout l'hiver, nu-pied, sans autre vêtement que sa chemise et ses bras. Un jour de grand froid, il arriva devant un pavillon dressé dans une clairière. À la porte, on avait planté un poteau où l'on avait accroché une lance, une épée et un écu. Aussitôt, Lancelot de dégainer l'épée et de frapper à grands coups sur la lance qu'il tranche et sur l'écu qu'il dépaisse, faisant autant de fracas que 10 gendarmes au combat. Au bruit, un chevalier sortit, chaudement botté et vêtu d'une robe d'écarlate bien fourrée, qui, à le voir à demi nu et en si mauvais point, comprit qu'il était en frénésie. Celui qui le recueillerait et le ramènerait en son droit sens ferait une grande aumône, pensa ce bon seigneur, qui avait nom Bliant, et il courut prendre ses armes pour désarmer le fou sans danger.
mais quand il s'approcha, « Sire, laissez-moi faire ma bataille !» lui cria Lancelot. Et comme Bliant avançait toujours, il lui asséna un tel coup sur le haume que la lame vola en pièces et que le chevalier s'écroula assommé. Là-dessus, Lancelot jette l'épée, entre dans le pavillon d'où une demoiselle s'échappe en pure chemise et criant d'effroi, saute dans le lit qu'il trouve tout chaud et s'y endort de bien-être aussitôt. La demoiselle, cependant, délaçait le haume de son ami. « Par ma foi !» s'écria Bliant en rouvrant les yeux. « Je ne croyais pas qu'un homme né de femme pût frapper si fort. S'il plaît à Dieu, je nourrirai et garderai celui-ci jusqu'à ce qu'il revienne en son droit sens, car c'est assurément un bon chevalier. » Et, aidé de son écuyer, il lia Lancelot tout endormi dans le lit par des chaînes et des cordes, et le fit ainsi transporter dans son château. Il le retint là le reste de l'hiver, puis tout l'été, mais il ne put le guérir, quoi qu'il fît. Lancelot, bien nourri, vêtu de riches robes, avait retrouvé sa grande beauté, et il semblait maintenant si paisible qu'on finit par le laisser aller à sa guise, sans autre entrave qu'une petite chaîne au pied, pour qu'il ne s'éloignât point. Ainsi demeura-t-il chez son hôte près de 2 ans. Un jour qu'il était assis sur le mur du château, il vit passer un sanglier chassé par Bliant et ses veneurs, et il lui vint grand désir d'aller avec eux. Il voulut courir, mais se trouvant gêné par sa chaîne, il s'en irrita et la tordit si rudement qu'il la rompit. Puis il descendit l'escalier, les chevilles sanglantes, sauta sur un cheval tout sellé qu'un sergent avait laissé à l'attache dans la cour, fit force d'éperon derrière la chasse qu'il rejoignit. Et le voilà qui crie à la meute et l'excite, comme celui qui s'entendait merveilleusement à cela, tant qu'enfin le porc s'arrête et commence de faire tête au chien, dont il occit plusieurs en peu de temps. Tous les veneurs avaient été distancés, sauf Bliant. Celui-ci avança, les pieux à la main, mais manqua son coup. Et la bête furieuse fendit le ventre de son cheval, qui s'abattit de telle façon que la tête du chevalier porta rudement sur le sol, où il demeura évanoui. À ce moment, Lancelot arrivait. Sentant bien que Bliant, dont il avait eu main bon traitement, était en grand danger, il saute à terre, sans autre arme qu'une épée qu'il avait trouvée pendue à l'arçon de la selle. Et comme le sanglier fonçait sur lui, il lui abat son arme sur la tête d'une telle force qu'il lui fend le crâne jusqu'à la cervelle. Puis il jette l'épée et s'éloigne à pied sans plus savoir ce qu'il faisait, laissant son hôte pâmé auprès de la bête morte. Chapitre 56. Le fou du château aventureux. Guérison. À nouveau, il erra par les bois, et comme il ne trouvait plus guère à manger, il redevint maigre et noir, et en aussi mauvais point que devant. Un jour, Dieu voulut qu'il arrivât devant le château aventureux. Il y entra, mais les enfants, qui ne tardèrent point à s'apercevoir de sa folie, lui jetèrent de la boue et des torchons. Et chassé par eux de rue en rue, il alla jusqu'au palais où il pénétra. Là, on lui donna par pitié à manger, et il se rassasia, ce qui lui fit grand bien au corps, car il y avait longtemps que cela ne lui était arrivé. Après quoi, le pauvre fol fut se coucher dans une étable, sur un peu de foin, et s'endormit. Il séjourna ainsi au château tout l'été, l'hiver et encore un été. Les chevaliers du roi Pélès, qui étaient très débonnaires, s'amusaient et riaient des folies qu'ils lui voyaient faire. Et souvent, le trouvant si paisible, ils lui donnaient de vieilles robes de sergent et d'écuyer. Mais nul d'entre eux ne se le remit jamais, tant il était changé. Une fois, pourtant, qu'il sommeillait dans le verger, la fille du roi, qui jouait avec ses demoiselles, vint se cacher justement au lieu où il était. Et, voyant un homme endormi, elle eut peur tout d'abord.
mais elle se prit ensuite à le regarder, et de plus en plus attentivement, tant qu'enfin elle le reconnut. Aussitôt elle dit à ses pucelles qu'elle se sentait souffrante et courut trouver son père, plus dolente que femme ne le fut jamais. « Sire, voulez-vous voir une merveille ?»«
Laquelle, ma belle-fille ?»«
Mais sire Lancelot du Lac est ici. »«
Ici ? Cela ne se peut, Lancelot est mort. »«
Venez avec moi, je vous le montrerai. »
Le roi considéra longtemps l'homme endormi.
« Dieu ! » fit-il enfin.
« Quel dommage ! Mais nous essaierons de le guérir. »
Et après avoir recommandé à sa fille de ne rien dire, il fit lier par des écuyers et transporter le fou au palais du Graal, où il le laissa seul. Et là, quand l'heure de la merveille fut venue et que la colombe eut volé, tenant au bec son encensoir d'or, et lorsque le saint vase passa, comme il faisait chaque jour, soutenu par des mains invisibles, car la fille du roi avait perdu avec sa virginité le pouvoir de le porter, Lancelot se sentit soudain guéri. Il retrouva sa mémoire, reprit son droit sens et reconnut le palais aventureux où il était déjà venu. Il rompit les cordes dont on l'avait attaché et courut ouvrir la fenêtre qui donnait sur un verger. Le roi Pélès était là, qui attendait.
« Sire, fit-il, Dieu vous donne bonjour. »«
Sire, répondit Lancelot,
que notre sire vous bénisse. »
Il descendit, et le roi lui conta la vérité de ce qui s'était passé.
« Sire, murmura Lancelot en baissant la tête, je vous prie pour Dieu de me dire si quelqu'un m'a reconnu. »
« Certes non, hormis moi et ma fille. »
« En ce cas, conseillez-moi au nom du Sauveur. Hélas, j'ai tant forfait au royaume de l'ogre que je n'y pourrai jamais retourner sans commandement. Je voudrais demeurer en un lieu où nul ne me connut.
J'ai près d'ici une île sans habitants.
Sire, grand merci, j'irai sitôt qu'il fera nuit. »
Ainsi Lancelot se retira dans l'île du roi Pélès, le riche pêcheur, accompagné de quelques écuyers pour le servir. Il s'était fait indiquer l'endroit du rivage qui était le plus proche du royaume de l'ogre, et chaque matin il venait s'y asseoir et regarder vers le pays où son cœur l'attirait. Certes, nul autre que lui n'eût pu souffrir tant de peine sans mourir, mais lui, de cette douleur même, qu'il endurait par amour, son âme était si haute qu'elle tirait quelque douceur. Ici, le comte se tait de lui, pour un moment, et retourne à Perceval le Gallois. Chapitre 57. Lancelot et Perceval. Retour à la cour. Maint hiver et maint été, il chevaucha sans trouver d'aventure qui vaille d'être contée en un livre. Et ainsi, durant 5 ans. Cependant, il vit beaucoup de gens et de pays, et il fut à beaucoup de cours, de manière qu'il devint de plus en plus avisé et courtois. Néanmoins, il resta toujours naïf et simple de cœur. Un jour, sur l'heure de nonne, il se trouva au bord d'une rivière large et profonde. Au milieu de l'eau était une île très riante où s'élevait un pavillon. Il se demandait comment il y pourrait passer, lorsqu'il vit venir le long de la rive un très bel enfant de 10 ans, en compagnie d'une dame d'une beauté merveilleuse et d'une troupe joyeuse de chevaliers et demoiselles qui tenaient tous, qui un épervier au poing, qui des lévriers en laisse, qui un petit braque dans ses bras. Et c'était la fille du roi Pélès. Elle chassait souvent sur cette rivière, avec le fils qu'elle avait eu de Lancelot et qu'on nommait Galahad, parce qu'elle y pouvait parfois, de loin, apercevoir son ami. Dès qu'elle fut proche, Perceval connut bien qu'elle était la dame de tous ceux qui étaient avec elle. Et, après l'avoir saluée, il lui demanda si elle n'avait point où y parler de Monseigneur Lancelot du Lac. À ce nom, la fille du roi tressaillit. Puis elle commença de pleurer amèrement, comme celle qui prévoyait bien que l'homme qu'elle aimait plus que rien au monde
allait s'éloigner d'elle. Pourtant, elle montra à Perceval une nacelle qui était cachée sous les roseaux et lui dit que Lancelot était dans l'île. Après quoi, elle s'en fut tristement. Lorsqu'il eut débarqué, Perceval s'approcha doucement du pavillon et, arrivé devant la porte, il jeta son écu, ôta son aume, dessaignit son épée qu'il posa devant lui, se mit à genoux et, comme Lancelot sortait, tout étonné, « Sire, lui dit-il, monseigneur le roi et madame la reine vous mandent. Il convient que vous retourniez à la cour. »«
Ce ne peut être, » fit Lancelot en baissant la tête. « Madame me l'a défendu. »«
Je vous le dis loyalement, elle vous mande, » reprit Perceval. Et il lui apprit qui il était et de quelle façon il était devenu compagnon de la table ronde, puis comment il s'était mis en quête de lui après tous les autres qui voulaient lui porter le message du roi et de la reine, et comment il avait erré pendant 5 ans sans le trouver. Alors Lancelot dit, en pleurant, qu'il ferait la volonté de sa dame. Sur le champ, il fut prendre congé du roi Pélès et se mit en chemin avec Perceval. Quelque temps après, ils arrivèrent à Caerléon, où la reine, qui avait failli plusieurs fois expirer de chagrin durant l'absence de Lancelot, fut si heureuse de revoir son ami qu'on n'eût point pensé qu'un cœur mortel pût contenir tant de joie qu'elle en fit paraître. Et le roi et toute la cour les festoyèrent à grand amour et contentement. Mais que vous dirais-je de plus? Il n'y eut personne dans tout le royaume de l'ogre qui ne fût en liesse du retour de Lancelot et qui ne s'en réjouit hautement, tant il était preux et bien aimé. Chapitre 58. Adoubement de Galaad. Quand Galaad eut 10 ans accompli, le roi Pélès résolut de l'envoyer dans un couvent de nonains en la forêt de Camaalot. Sa mère l'aimait si fort qu'elle pensa mourir de deuil lorsqu'elle le vit prêt à s'éloigner. Les bras levés, pleurant si tendrement qu'on ne pouvait l'entendre sans souffrir, elle fut baiser son enfant, et chacun des chevaliers et des écuyers qu'on avait donnés à Galaad pour l'accompagner. Et sachez que pour rien au monde, nul d'entre eux n'eut alors 10 mots. Quant à elle, elle ne se fut jamais retenue de suivre son fils, si le roi Pélès ne le lui eût défendu. L'enfant demeura dans l'abbaye jusqu'à ce qu'il fût devenu un bel et gente damoiselle d'un peu plus de 15 ans. À cet âge, personne ne valut jamais autant que lui. Il était non pareil pour nourrir le gerfaut, l'autour, l'épervier, le faucon gentil ou l'ânier, pour mener les chiens, pour monter les chevaux. Il savait tirer de l'arc et fabriquer avec son couteau tous les traits, flèches et carreaux. Il jouait aux tables mieux comme au monde, et quant à la chevalerie, nul ne s'entendit jamais mieux que lui à manier un destrier, s'escrimer de l'épée et s'aider de la lance et de l'écu. Mais il savait aussi lire, écrire, parler latin. Surtout, il avait le plus franc cœur et le plus loyal du monde. De tout cela, le comte devisera quand il sera temps. Or, cette année-là, qui fut la 454e après la passion de notre Seigneur, la veille de la Pentecôte, il arriva que Lancelot et Bohort s'attardèrent si fort à poursuivre un cerf dans la forêt qu'ils furent surpris par la nuit, et qu'ils vinrent justement s'héberger dans la maison de religion où était Galaad. Ils s'émerveillèrent de le trouver si beau valet, de sorte que Lancelot consentit volontiers à l'armée chevalier, quand l'abbesse le lui eut demandé. L'enfant passa la nuit dans la chapelle à prier son Créateur, puis le lendemain, à l'heure de prime, son père lui chaussa l'éperon droit, tandis que Bohort lui bouclait le gauche. Et Lancelot lui ceignit l'épée et lui donna la collée, en disant « Que Dieu te fasse prudhomme !»« Dame, ajouta-t-il en s'adressant à l'abbesse,
souffrez maintenant que notre nouveau chevalier vienne avec moi à la cour du roi Artus, car il s'y perfectionnera mieux qu'ici.
Beau sire, nous l'y enverrons dès qu'il sera temps. »
Là-dessus, Lancelot prit congé, ainsi que Bors, et tous deux retournèrent à Camaalot. Mais ici finit ce conte, et prochainement vous aurez celui du Graal, qui est de très grand sens et bien doux à écouter. Vous y verrez comment les compagnons de la table ronde entreprirent la haute quête et leurs épreuves, et comment Galaad s'assit au siège périlleux et à cheval les temps aventureux. De tout cela, le conte devisera selon la vérité, et il n'en scellera rien, car ce sont choses bien dignes d'être racontées à d'honorables seigneurs et dames, assurément. Explicite.